Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Thomas Mulcair, comment ça se fait qu'Erin O'Toole refuse systématiquement de dire combien de députés conservateurs sont vaccinés et combien ne sont pas vaccinés? Ça va le suivre, ça, longtemps.
Et en plus, on est toujours en quête de savoir, et Mark Holland, qui est le leader en chambre des libéraux à Ottawa, a vraiment scoré bien là-dessus hier, il a dit, est-ce qu'on peut savoir combien d'entre eux autres se réclament d'une exemption médicale pour ne pas être vaccinés? Parce que ça existe. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui ont eu une réaction leur première dose de vaccin. C'est sûr qu'ils n'ont pas besoin d'être vaccinés une deuxième fois. Ils vont recevoir une exemption médicale. Ils vont avoir un passeport médical, même avec cette première dose. Mais c'est genre une personne ou deux sur 100 000. Donc, Holland s'amusait un peu hier, disant, ben, il y a une centaine de députés conservateurs. S'ils sont rendus 5-6 avec des exemptions, on a le droit de savoir d'où ça vient, qui a écrit l'exemption médicale et si ça a du bon sens. Là, on nage encore dans le flou. Et depuis qu'il a donné des entrevues en fin de semaine, on regarde aller autour puis on dit, comment ça se fait qu'il traîne encore ce caillou dans sa chaussure? Il est pas capable de s'en débarrasser. Parce qu'il est juste pas bon comme politicien, puis il est pas capable de contrôler son caucus et d'imposer sa loi.
Et Jean-François, on devrait lui présenter Denis Coderre, parce que Denis Coderre, ce qui l'a tué pendant sa campagne, c'est justement qu'il refusait de répondre à une question simple.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est comme si tout le monde gagnait la loto 749, parce que normalement, il y a une personne sur 20 000 qui a droit à une exemption, pardon, j'ai un chat dans la gorge, à une exemption pour des raisons médicales. Puis là, il y en aurait, on ne sait pas trop, 10, 15, 20 sur 119. Je veux dire, c'est très grave. Là, il y a vraiment un problème médical majeur avec le caucus conservateur.
On peut en conclure, oui, effectivement. Il faudrait vraiment faire une enquête épidémiologique là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans les chaises à la Chambre des communes, les chaises conservatrices? Est-ce qu'il y a un complot contre eux autres? C'est peut-être ça qu'il faut enquêter maintenant.
Mais tu sais, les commanders Andrew Scheer qui s'enfergeait sur l'avortement, lui, c'est sur la vaccination.
Ben oui, mais ils ont fait la même chose aussi pendant la campagne. Et, rappelez-vous, là, c'était inédit. Pendant sa campagne en 2019 contre Trudeau, Scheer s'est caché. On est en pleine campagne générale, nationale, électorale. Le gars s'est caché pendant 6 jours parce qu'il ne pouvait pas répondre sur l'avortement. Autour, c'est caché. 3 des derniers 5 jours de la campagne électorale 2021, il s'est caché parce qu'il s'était accoquiné avec Jason Kenney en Alberta. C'était une catastrophe, la gestion de la pandémie en Alberta. O'Toole avait déjà dit que c'était la meilleure façon de procéder. Oups-palais! Kenney est allé s'excuser à 48 heures du vote et pauvre O'Toole, il était même pas capable de se présenter devant les micros. Il annulait des entrevues très importantes. Ça lui a coûté toute chance d'avoir son propre gouvernement minoritaire, certes, mais quand même, il a perdu toute chance. C'est exactement le replay de ce que Scheer a fait 2 ans auparavant.
Tout à fait. Jean-François, je veux t'entendre sur Nathalie Normando qui réclame 2,5 millions de dollars en dédommagement. Nathalie Normando, on sait que le procès a avorté parce que ça durait depuis trop longtemps, ça a traîné. Mais une des raisons pourquoi ça a traîné, Jean-François, c'est parce que Marc-Yvan Côté, qui était aussi un des co-accusés, ne cessait de multiplier les requêtes, ce qui fait que ça a traîné en longueur. Donc, elle n'a pas eu son procès. Elle demande 2,5 millions. Tu en penses quoi, toi, qui as souvent dénoncé justement les magouilles des libéraux?
Mais dans ce cas-ci, Mme Normando s'était dissociée des requêtes de Marc-Yvan Côté, avait réclamé un procès séparé, ce qui lui avait été refusé, avait voulu plaider au moment de son enquête préliminaire. Elle pensait, on ne saura jamais, mais elle pensait que la preuve n'était pas suffisante même pour passer l'étape de l'enquête préliminaire. Je veux dire, il n'y a pas de doute que elle a été très proche de la compagnie d'ingénierie de Marc-Yvan Côté. Il n'y a pas de doute qu'elle a pris des décisions au-delà de ce que les fonctionnaires disaient pour aider un certain nombre de projets. Mais est-ce que c'était criminel? Est-ce que ça allait passer le cap de la présomption d'innocence? Elle avait des bonnes raisons de penser que non, mais c'est la couronne qui a décidé qu'il n'y aurait même pas d'enquête préliminaire pour aller au procès. Lorsque le juge a déclaré qu'elle avait raison de demander un arrêt des procédures, le juge a été très raide sur le fait que une série de conditions avaient été réunies qui avaient été au détriment de Mme Normando. Donc, pour aller au civil, sa principale pièce à conviction, c'est le juge. Elle a peut-être des chances.
Mais le fardeau de preuve n'est pas pareil en matière criminelle et en matière civile. Donc, elle a une côte assez abrupte à monter, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas réussir. Parce qu'effectivement, Jean-François vient d'énumérer d'une manière vraiment de maître exactement ce qui s'est passé dans le cas de Nathalie Normando. Mmh. Mais toujours est-il que le fardeau de la preuve en matière criminelle, c'est que la couronne doit prouver chaque élément de l'infraction au-delà d'un doute raisonnable. C'est très fort comme fardeau. Pour ce qui est du civil, le juge doit regarder qui a plus raison, qui a plus tort. C'est juste l'équilibre, c'est la balance qu'on dit. Donc, à ce moment-là, le fardeau de la balance de la preuve, c'est un fardeau moins élevé. Donc, elle s'expose quand même. Si le gouvernement du Québec peut dire un instant, là, il y avait au moins ça, puis c'était pas déraisonnable, notre truc, ça risque d'être difficile. Elle est gagnante dans la mesure où tout ce qui était au criminel, ils ont dû abandonner. Elle avait la tête haute. Mais elle risque, je dis pas que je connais le résultat, mais elle risque d'avoir une surprise au civil, ce qui ferait juste jeter un point d'interrogation, un petit doute sur elle. C'est elle qui a soupesé ça avec ses avocats. Mais moi, si c'était une amie et pas juste quelqu'un que je suis en train d'observer, elle a déjà été une collègue, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Moi, je lui aurais dit, mais il faut vraiment que tu soupèses ça parce que tu risques d'avoir une surprise.
Ben c'est ça, est-ce que l'élastique ne risque pas de lui péter en pleine face, Jean-François? C'est-à-dire qu'on va déterrer toutes ces histoires-là qui ont été pratiquement oubliées. Là. Elle a une carrière maintenant à la radio, puis tout ça est derrière elle.
Oui, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais bien savoir exactement, comme le dit Tom, quel a été le calcul de son avocat ou de ses avocats, parce que avec son livre qu'elle a publié là il y a quelques mois, elle a fait une bonne démonstration du fait qu'elle avait été la victime d'un genre d'acharnement des procureurs. Maintenant, elle a une belle carrière radiophonique et donc elle se plaint évidemment que 50 sa vie lui ont été volés par cette histoire. Mais est-ce qu'elle va vivre encore 2 ans ou des preuves devront être faites sur est-ce que c'était raisonnable ou pas raisonnable? Donc, elle se replonge dans ce passé récent qui a été très traumatisant pour elle. Je suppose qu'elle a fait son calcul.
Tout à fait. Thomas, tu veux nous parler de deux histoires qui impliquent la langue. Donc, premièrement, l'Université McGill qui a fermé un programme en français et qui l'a annoncé en anglais seulement.
Oui, puis les chargés de cours sont en train de capoter. C'était apparemment des cours super. Et pour une somme assez importante quand même, c'était 2 000 $, mais il y avait 6 semaines, 2 tuteurs, quasiment du temps plein, vraiment pour booster. Hein? Tu arrives de Toronto, tu es expert dans tel domaine, tu veux enseigner. Voilà tout ce qui était ton cours d'immersion quand tu étais petit à Toronto. Ben là, ça peut devenir très vite, très réel. On va te donner un bon coup de main. McGill avait ces programmes-là, c'était bien. Et ils l'ont annulé sans en parler avec qui que ce soit. Il y a eu un truc absolument invraisemblable qui est arrivé hier quand le ministre responsable de lutter contre le racisme au Québec a sorti 2 publicités, une en français puis une en anglais. Puis c'était, bon, comment on appelle ça, un groupe de jeunes noirs qui jouent dans le parc? La réponse en français, c'est des amis québécois. En anglais, c'est « What do you call friends who are playing in the park? » Friends. Mais le mot québécois a sauté. Donc, la communauté anglophone a pété une coche. Le ministre a défendu la décision comme un choix éditorial. Allô, bienvenue en politique. Et là, hier soir, il a dû tweeter, nouvelle mode de communication, que ça n'avait pas de bon sens. Mais, jamais 203, je vais vous le mettre sur la table, un autre pièce de linguistique pour la journée d'aujourd'hui. Mary Simon, de mémoire récente, a été nommé gouverneur général du Canada. Mm-hmm. Première fois depuis des générations qu'on a une représentante ou représentant de la reine qui ne parle pas un mot de français. On l'a bien vu. Donc, ils ont promis qu'elle ferait ça en français aujourd'hui. Ah, ben, gardons ça. Ce que j'ai appris en faisant de la radio à Toronto ce matin, puis j'ai pu le confirmer avant notre rencontre maintenant, c'est qu'elle va parler anglais avec des bouts en français. Et pour la première fois de l'histoire du Canada, une langue autochtone, ce qui est en soi fort louable.
Ben oui.
Et qui est l'Inuktitut, mais un instant là. Je m'excuse de le dire comme ça, mais est-ce que la gang autour de Trudeau sont pas en train d'essayer de spinner que, regarde, c'est en anglais, normal, et là, on va avoir des petits mots en français, compréhensibles ou pas, selon combien d'heures elle a passé à apprendre. Et là, Inuktitut, est-ce qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a l'anglais comme langue générale et normale au Canada, le français comme petit à côté qu'on peut ajouter de peine et de misère, et on le met quasiment au niveau des langues autochtones qui doivent être protégées. Il faut faire la promotion, il y a énormément de travail qui se fait là-dessus, mais dans un pays qui a 2 langues officielles, soi-disant, est-ce qu'on n'est pas en train, par la bande, de diminuer complètement le rôle et l'importance du français.
Jean-François, c'est presque comme s'il y avait une langue officielle. Le steak, c'était en anglais, puis les petits à côté, là, les petits légumes à côté.
Les petits pois, c'est la langue française. Le pea soup.
Oui, je pense que... Attention à ce que tu dis, là, Tom. Mais je pense que c'est un bon reflet de la réalité linguistique canadienne. Mais je vais revenir sur l'autre question des publicités, donc antiracistes, avec le mot québécois ou non. Ça m'a beaucoup dérangé parce que c'est inqualifiable, mais ça m'a pas surpris parce que lorsque j'étais au bureau de M. Bouchard, j'avais été directement impliqué dans une publicité qu'on faisait et avec un groupe de gens qui étaient responsables du placement publicitaire. Il y en a un qui m'avait dit, êtes-vous sûr que vous voulez utiliser le mot Québécois ou le mot Québec parce que quand on utilise ça en anglais, ça baisse la résonance ou l'acceptabilité du message. Et donc, là, j'ai appris ça. Et puis, j'ai dit, oui, on l'utilise parce que c'est ça qu'on veut dire.
Ben, bravo. Alors,
donc, je n'ai pas... Donc, c'est sûr que c'est ce qui a été dit à M. Charrette et aux gens qui ont conçu la publicité.
Oui, apparemment, le même gars est encore là, Jean-François.
C'est toujours le même. j'ai demandé à notre ami Jean-Marc Léger, j'ai dit, est-ce qu'il y a des données là-dessus? Et puis il m'a répondu ceci, je vous lis. C'est plus subtil que ça. Le mot Québécois ou Québécois, associé à la mode, aux produits de beauté, à la bouffe ou au festival, est perçu positivement par les Anglo-Québécois. Mais lorsqu'il est question de politique, de langue ou de différence québécoise, les anglophones en sont allergiques. J'ai demandé à mon ami Jack Jedwab de l'Association des études canadiennes ce qu'il en pensait. Et puis, il m'a montré un sondage qui montre que 70% des Anglo-Québécois sont attachés au Québec Les 30% n'y sont pas attachés, dont 10% vraiment pas. Alors, c'est sûr que quand tu fais une publicité, tu veux qu'il y ait une réponse positive de...
Mais c'est très intéressant, ça. Thomas Leonard Cohen ne s'est jamais dit Québécois. Il se disait Canadien ou un Montréaler.
Et pourtant, il a eu des mots très sévères pour le Canada. Une citation que je te donne, « I hope that history jumps on Canada's back with sharp skates. »
Alors,
c'était un poète à temps complet. Mais c'est un vrai, un peu quelqu'un de la planète aussi. Il a vécu dans un temple bouddhiste pendant au moins cinq années vers la fin de sa vie. Et il y a un très, 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 très bon documentaire Netflix sur la Marianne.
Ben oui, extraordinaire. Où il vivait en Grèce pendant quelques
années. En tout cas, moi, je continuerais d'être très fier de voir sa tronche et son chapeau Fedora sur le bord d'un immeuble sur Crescent, parce qu'il nous appartient quand même un peu.
Non, mais il faut dire, Richard, là, que d'ailleurs, par solidarité envers ses amis québécois nationalistes, il avait refusé le prix du gouverneur général. En fait, il était très sympathique à la cause québécoise et il le dit souvent en entrevue.
Je voudrais vous souligner que ce week-end, je suis allé me recueillir avec ma douce sur la tombe de Leonard Cohen, justement dans le cimetière juif sur le Mont-Royal. Il y a une entrée juste au coin de Chemin de la Forêt et Boulevard du Mont-Royal. Il y a une entrée. Vous entrez là, vous allez tout de suite à droite et la tombe de Leonard est là. Et il y avait plein de fleurs et de roches selon la tradition juive. Donc, un grand Québécois. Merci beaucoup, Thomas. Et merci.
And a big Quebecer.
And a big Québécois. Oui. Merci, Thomas. Merci, Jean-François. Si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée et écouter son excellent balado, allez sur laboitealizée.com.